Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kadia Toutapili.
Bonjour Lila Louise.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invitée.
Bah, vraiment avec grand plaisir pareillement. Raconte-moi Kadia Tout, comment et pourquoi tu es devenue avocate?
Alors, longue histoire, mais je vais être très rapide, je l'espère. Ma mère m'a toujours dit, on a grandi à Strasbourg, je viendrai dessus après, tu seras ou avocate ou médecin, parce que je n'ai pas envie que vous souffriez comme moi quand je suis arrivée en France. Ma mère est femme de ménage, mon père est ouvrier, et elle est arrivée à Strasbourg il y a à peu près 40 ans maintenant. J'ai 4 sœurs, une grande sœur qui est autiste, je précise parce que c'est un élément qui est très important dans ma vie, moi-même qui suis deuxième, donc challenger, mais aînée de fait, et 3 autres petites sœurs qui ont fait des plus ou moins longues études. Mais du coup, j'étais un peu l'exemple pour mes petites sœurs. Et mon père est parti quand j'étais assez jeune et j'étais un peu le bras droit de ma mère. Et donc, vu que j'avais des bonnes notes, elle se disait qu'il fallait que je sois ou avocate ou médecin. Voilà.
Ok, et donc avocate plutôt que médecin?
Alors, j'ai un bac scientifique que j'ai eu dans la douleur, tu ne peux pas imaginer, 10-0-0.
7 juste en maths. Pour dire.
Ouais, juste pour dire, je suis pas au rattrapage, mais je l'ai eu. Et après, j'avais fait une prépa médecine en terminale et je me suis dit que j'allais jamais y arriver. Parce que beaucoup trop long et même les matières scientifiques pas possible. Et en fait, j'aimais beaucoup l'histoire et j'avais cette rage, je pense, dès toute petite, en étant une fille, une noire à Strasbourg, à mon époque, elle n'avait pas beaucoup, déléguée de classe du CP à la terminale sans faille, même pendant mes 2 secondes quand j'ai redoublé. Et en fait, je me suis dit, je vais faire du droit parce que j'aime bien l'histoire. Mais vu que je suis à Strasbourg, il y a un seul établissement qui m'intéresse, c'est l'École nationale d'administration. Juste ça. Et donc, c'est pour ça que je suis allée en droit, en fait.
Ok, École nationale d'administration. Et qu'est-ce que tu projetais derrière l'École nationale d'administration?
D'être ministre, tout simplement.
Ok.
Non, mais en fait, tout ça pour répondre au sujet que j'ai pu avoir au quotidien quand j'étais plus jeune. Tu seras pauvre comme ta mère, grosso modo. Tu seras femme ménage comme ta mère. Tu seras boursière, etc. J'ai eu de la chance d'être dans un collège et lycée privé. Et on m'a assez souvent mis ça dans la figure, sans être trop vulgaire. Et à force, je me suis même mise à mentir, en fait, sur les activités de ma mère, en disant qu'elle était chef d'entreprise. Alors oui, mais ses clients, c'était chez lesquels elle faisait du nettoyage. Que mon père ne travaillait pas, alors qu'en fait, si, il faisait du 3x8, etc. Et puis, en fait... je me suis dit qu'il fallait que je montre à la société qu'en tant que fille puis femme noire, on pouvait plus y arriver que les autres. Et c'est pour ça, Léna, en fait.
Et tu vois, tu dis que tu étais en école privée. C'est parce que ta mère, enfin tes parents ont fait des, entre guillemets, des sacrifices de se dire, bon, en fait, pour que nos enfants aient une chance de réussir, il faut qu'on les mette au moins dans une école privée. Ou est-ce que ça a été, tu vois, entre guillemets... d'autres concours de circonstances de type bourse ou quoi au caisse?
Alors, c'est mon père était assez rapidement hors la photo, mais il est revenu quand sa fille est devenue avocate. On va laisser 3 petits points, mon père écoutera. De toute façon, on s'entend très bien aujourd'hui. Mais effectivement, c'est ma mère qui s'est sacrifiée pour ses 5 filles, pour qu'on aille dans des établissements prestigieux, pour qu'on n'ait pas les mêmes difficultés qu'elle. Mes parents ont arrêté leurs études très jeunes. Et donc, ma mère voulait qu'on ait la meilleure éducation possible. Et certes, elle a eu la bourse, mais même si on ne l'avait pas eue, nous, on serait allés dans des établissements privés par la suite, quoi.
Ouais.
Ouais.
Ouais, donc, je veux dire, aussi, j'imagine une espèce de pression de... C'est pas juste la pression de, ma mère a des ambitions pour moi, il faut que j'y arrive. C'est en plus, ma mère a des ambitions et elle a fait 1000 sacrifices pour que je puisse y arriver. Donc il faut que j'y arrive, quoi.
Ouais. Exactement. Et en fait, dès toute petite, j'ai eu cette pression. Mais parce que, en fait, ma mère, ça a toujours été mon modèle. Je me suis dit, elle a toujours tout fait, mais vraiment tout fait pour nous. Elle nous a eu jeunes. Ma mère et moi, on a 25 ans d'écart. On se ressemble comme 2 gouttes d'eau en plus. Enfin, peu importe pour ça. Mais en tout cas, il fallait que je la rende fière. il fallait que tous les sacrifices, bah, je lui rende l'appareil et il fallait aussi que je sois un exemple pour ma petite sœur. Donc en fait, j'avais pas le choix et pas le droit de faillir en fait et de rater.
Et donc toi, tu vises l'ENA, donc plutôt version ministre qu'avocate, alors que ta mère, elle te voyait avocate. Est-ce que ta mère, quand tu dis que tu vises l'ENA, enfin déjà, est-ce que tu lui en parles? Et si tu dis que tu vises l'ENA, est-ce qu'elle, entre guillemets, est-ce qu'elle visualise ce que c'est, est-ce que ça représente, ou est-ce que c'est juste genre, bon, globalement, ça passe par le fait de faire du droit, donc ENA, avocate, c'est un peu la même, tu vois, comment est-ce que...
Pas du tout. Je pense qu'elle a même pas non plus l'idée de ce qu'est un avocat ou une avocate au quotidien. C'est juste que c'est des métiers prestigieux qu'on voit à la télé. New York Unité Spéciale, etc., par exemple. Et donc, elle se dit qu'elle veut que ses enfants réussissent. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir basketteuse professionnelle. Elle m'a dit hors de question. À un moment, je lui ai dit que je voulais travailler dans la mode. C'était hors de question aussi. Et donc, je lui parle même pas de l'ENA. Mais moi, je sais que les cours d'histoire... surtout à l'époque de la Révolution française, fin 19e siècle, avec les valeurs de la République, c'était des choses qui me parlaient parce que c'était des valeurs que j'avais aussi eues dans la cité dans laquelle j'ai grandi. Alors, on ne parlait pas de bienveillance, mais on parlait de liberté, égalité, fraternité. Et c'était un peu ce qu'on avait dans ma cité. Et donc, on serrait les coudes. Environnement dont j'avais énormément honte quand j'étais plus jeune. Et donc, je ne lui parle pas de l'ENA, mais je lui dis que je vais faire droit pour devenir avocate. Et c'est qu'au fur et à mesure de mes études de droit que je suis arrivée à l'avocature, en fait.
Ouais. Sinon, Et finalement, t'as délaissé l'ENA, du coup?
Ouais, j'ai complètement délaissé l'ENA parce que, en fait, au fur et à mesure, je me suis connue, moi. Et l'ENA aussi, je pense que c'était parce que je voulais casser les codes de l'environnement dans lequel j'avais grandi. L'ENA, c'était pour moi des personnes qui habitaient dans des villas, dans des hôtels particuliers à Paris, dans le 16e, etc. Et aujourd'hui, alors le 16e, on en pense ce qu'on veut. J'ai des amis qui sont dans le 16e, mais c'est pas l'environnement dans lequel je veux être. Donc, au fur et à mesure, je me suis connue. J'ai entièrement changé d'avis.
C'est rigolo parce que la semaine dernière, j'avais un avocat au téléphone qui est l'associé d'un avocat pour qui j'étais stagiaire en 2015. Et en fait, il me dit, mais attendez, donc vous avez quitté la profession d'avocat? Je dis, bah oui. Il me dit, mais c'est fou parce que moi, j'ai quand même le souvenir que vous étiez une jeune femme brillante, assez sûre de vous. Moi, je vous voyais déjà dominer le monde dans un cabinet américain du haut de vos Louboutins et tout. Et je lui ai dit, bah, je crois qu'à l'époque, c'est à peu près la vision que j'avais pour moi-même aussi. Ouais. Les Louboutins et les cabinets, je sais pas si américains, mais en tout cas, tu vois, les grandes structures internationales et tout. Et je lui dis, puis, bah, écoutez, finalement, c'est cette vision pour moi-même a changé et s'est réactualisée et ça s'est transformé en d'autres choses. Mais c'est rigolo, la manière dont, tu vois, il y a des espèces de
paliers.
Ouais.
Et je pense que c'est un... Enfin, moi, je parle de palier. Peut-être que tu pensais pas au même terme, mais je trouve ça beau de, au fur et à mesure d'apprendre à se connaître, de faire un point d'étape, en fait, dans ton expérience, dans ta vie, et te dire, c'est... Je vais faire une phrase de Yogi. C'est OK de pas vouloir faire là où on nous attend, en fait. Et aujourd'hui, du haut de mes 35 vieilles années, je sais pas si je vais être avocate toute ma vie, j'en sais rien, mais... J'accepte de m'écouter et de me dire, en fait, non, c'est fini.
Oui, et puis au-delà de là où on nous attend, c'est aussi là où toi-même,
ouais,
tu t'attendrais
ouais.
à... Enfin, tu vois, là où toi-même, à un moment donné, tu t'es dit que t'irais, quoi. Mmh. Et finalement, de l'épreuve d'une certaine réalité, de peut-être... Ouais. Enfin, au-delà d'une réalité aussi, d'autres découvertes que tu fais, de te dire, ah ouais, mais en fait, il y a ça aussi qui a l'air cool et plutôt, je vais aller vers ça.
Ouais.
Et du coup, donc, entre guillemets, ton projet vers l'ENA s'évanouit progressivement au bénéfice de l'avocature. Comment est-ce que comment est-ce que tu fais tes orientations, on va dire, à ce stade-là?
Alors, beaucoup, je suis encore dans le côté qu'Adiatou ne se connaît pas encore, vit au travers du prisme de sa maman, qui veut être la meilleure là où elle va. Et en fait, je réfléchis un peu à contrario ou par débouché. Je me rends compte que l'ENA, c'est quand même des études très prestigieuses et j'ai le côté je suis quand même femme noire, je sais pas si je vais y arriver, quoi, même si j'ai des bonnes notes, je suis pas certaine, et les débouchés sont pour moi pas très très élevés. Droit constitutionnel en première année, ça me plaît énormément, droit administratif aussi, Et en troisième année, je découvre le droit des sociétés à l'université de Strasbourg. J'ai fait droit des, enfin, j'ai fait toutes mes études de droit jusqu'au master 2 à Strasbourg. Et en fait, le droit des affaires, droit des sociétés, il y a le côté droit boursier, grosse structure dont je parlerai plus tard parce que je suis passée par là. Mais aussi, ça me fait tout de suite un écueil assez important sur l'épicerie du coin de ma cité où, en fait, je me rendais compte que il y avait des personnes qui maîtrisaient pas forcément la langue française. Et donc, comment s'installer quand on veut ouvrir un doner kebab, on dit ici un grec. Et donc, j'essaye de discuter avec eux pour dire comment créer une société et tout. Et en fait, c'est comme ça que moi, je voulais aider les personnes. Et en fait, je tombe amoureuse du droit et société. Alors, pas de la SNC, etc., pour ceux qui nous écoutent. Mais comment se lancer, en fait. Et c'est le côté entrepreneurial que j'ai découvert à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai plongé vers l'avocature, en fait.
L'aspect, l'aspect TPE, PME, ouais. L'économie du quotidien, ouais. Ces aspects-là, quoi.
Ouais. Mm. Et dans un stage de Master 2 à Strasbourg aussi, où il y avait un sujet de responsabilité, alors ou contractuelle ou délictuelle, peu importe, mais sur la farine du pain qui avait été créée, qui avait été utilisée, le savoir-faire, ça m'avait fascinée. Mais vraiment, parce que c'était en fait toute une étude de boulangerie qui pouvait en fait péricliter et être liquidée par la suite. Et en fait, c'est une affaire de famille, une affaire de potes, etc. quoi. Donc super intéressant pour moi.
Ouais. Et donc, ok, droit des sociétés, avocature. Et tu dis que tu as quitté Strasbourg après ton master 2 justement.
Ouais, j'ai quitté Strasbourg. Alors je voulais quitter assez tôt parce que je me rendais bien compte que bon là on n'était pas deux noirs mais cinq. Et que, bon, à part faire du droit des étrangers, ça allait être chaud. Et puis, il y a eu vraiment un coup près. Alors, j'ai pas été prise dans les facs prestigieuses dans lesquelles j'avais postulé. Et en Master 2, j'ai une phrase, mais ultra choc, qui arrive en cours, où il y a une avocate, mais de manière très bienveillante, fait un tour de table et se demande où vont partir les personnes après le Master 2. Et moi, je dis que je veux partir à Paris. Et elle me dit, encore une fois, avec la plus grande bienveillance qui existe sur Terre, vous faites bien. Parce qu'en tant que noire, en Alsace, vous ne trouverez jamais de travail.
Oh, mais l'enfer de ces gens.
Ouais, mais c'est une réalité.
Ah ouais, mais c'est une réalité, ouais.
Et donc, elle me dit ça et sur le coup, je dis rien. Et en fait, parce que je ne réalise même pas. Et je me dis, mais c'est une dinguerie, en fait. Et en fait, je ne suis pas partie pour ça. Mais parce que Paris, dynamisme, c'est l'air où il y a Barack Obama qui arrive, Michelle Obama qui arrive, les séries américaines, on voit Olivia Pope, etc., plein. Ou commence à me comparer à ces femmes-là. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait que ces personnes-là auxquelles on peut me comparer. Et moi, je continue à m'oublier dans ces femmes-là qui sont très bien et qui ont été des modèles pour moi. Et donc, je pars à Paris en ayant cette avocate en tête qui me dit ça. Et c'est vrai que quand j'arrive à Paris, ben, je me sens beaucoup moins seule. Beaucoup, beaucoup.
Tu dis, oui, globalement, à part du droit des étrangers...
ouais, impossible.
C'est tellement... Enfin, non, mais c'est tellement cliché, tu vois. Et en même temps, c'est un peu comme t'es arabe, tu fais du droit pénal,
exactement.
Quoi, tu vois.
Genre, bah ouais, t'as tous tes frères qui seront derrière les barreaux, etc.
Et heureux. Enfin, ouais. Évidemment que tu vas faire du droit pénal, ouais.
Bah oui. Ouais. Non, mais c'est fou. C'est fou. Et en fait, ce qui est encore plus fou, c'est jusqu'à l'année dernière, je réalisais pas à quel point c'était des vrais dingueries parce que assez isolée, je sais pas trop à qui en parler. Ma mère, mes sœurs, je me dis bah il y a tellement le quotidien que je vais pas les saouler avec ces histoires-là. Et de l'autre côté, je me dis toujours en master 2, il y a le côté entrepreneurial qui me titille parce que bah je fais du basket depuis l'âge de 11 ans, je suis sur les terrains depuis l'âge de 11 ans, je suis dans l'associatif à ce moment-là, je suis dirigeante de club aussi. Alors pas encore, mais je suis déjà coach d'équipe de basket. Et donc je me dis c'est bien l'entrepreneuriat, mais en fait, on part tous du même endroit. On va pas gagner beaucoup d'argent et il faut que je m'en sorte, quoi. Il faut que ma mère soit fière de moi et ça passe aussi, malheureusement, pour moi, en tout cas, à ce moment-là, par le financier. Et puis, j'arrive à Paris avec un emprunt de 25 000 euros. Hein, donc, tout est bien cadré. J'ai mon emprunt, j'ai mon barreau du premier coup, PPI, stage final, enfin, école EFB et stage final.
Avec ton business plan où il faut que t'aies au moins tant de rétrocessions d'honoraires parce que
exactement.
Sinon, ça passe pas. Et...
Exactement.
Ouais.
Bien évidemment, j'arrive à Paris, je paye la prépa. Là, dans mon business plan, tout va bien. Sauf qu'après, j'ai pas les écrits du barreau. Donc, ouais. Et donc là, je me dis, ah ouais, grosse galère. Mon business plan, il est chaud. Et j'avais trouvé mon stage à l'époque chez Air France KLM avant même de rentrer à l'UFB, commencer par mon PPI pour avoir une rentrée d'argent. Et en fait, bon, ben, j'ai le PPI chez Air France KLM, mais pareil, gros stress, je n'ai rien à faire là, syndrome de l'imposteur énorme. Et je me dis, ben, en fait, c'est foutu. Je trouve pas d'appartement tout de suite parce que, plein de sujets, mais j'ai eu des phrases du genre « Ah non, non, mais alors des femmes noires chez moi, c'est du meublé, je sais que vous êtes des sauvages, mon lit va être souillé, je ne veux pas de vous. »
Enfer du
enfer, truc. Enfer, mais en fait, ça te rend plus forte et tu dis « Bah, tu connais, t'as grandi en Alsace, donc tu connais, quoi. » Et donc, bah, tu continues à te battre et finalement, t'es rodée, donc ça va. Et c'était une très belle expérience pour moi d'avoir raté le barreau parce qu'initialement, j'aimais tellement le volet entrepreneurial que je me disais que je vais avoir le diplôme d'avocat, mais je vais pas travailler en tant qu'avocate. Je voudrais être plutôt conseil en entreprise pour des personnes qui veulent se lancer. Typiquement, j'avais vu que la DGE faisait ça, parce que entreprise, oui, mais pas n'importe laquelle, hein. Il faut que j'ai mon standing de réussite, donc direction générale d'entreprise ou chambre de commerce et de l'industrie d'une certaine ville, etc., pour aider les personnes à se lancer. Et en gros, mon petit bureau, etc., où je donne des conseils. Mais je voulais pas devenir avocate en contentieux, par exemple. Et en fait, mon expérience chez Air France KLM m'a permis de me rendre compte que je voulais pas du tout travailler en entreprise et pas du tout faire du conseil. Parce que pour moi, c'était pas assez stimulant, même si aujourd'hui, j'en fais encore un petit peu du conseil, malgré tout. Et donc, mon business plan tombe à l'eau. Et donc, je repasse le CRFP à tant bien que mal et je me dis, bon, bah, il faut que j'assure mes arrières. Donc, je fais un stage en parallèle en droit bancaire. Hein, je commence à ouvrir les horizons. Ça, au pire du pire, je me disais, et pareil, là, je me donnerais des claques, je serais juriste. Alors que être juriste, c'est très, très bien. J'ai le CRFPA. Vu que c'est pas assez, je continue le basket. Je commence à enseigner en travaux dirigés à Paris 2. Expérience formidable parce qu'en fait, je me rends compte que transmettre pour moi, c'est super important. Et c'est un peu sur ces expériences comme celle-ci que je commence à me connaître et à me dire, ben en fait, je serai avocate en contentieux, mais pas que. Et qu'en fait, tout est possible. Je suis hyper active, sauf que je n'avais pas vraiment conscientisé, je pense, jusqu'à mon entrée à l'UFB en 2013. Et voilà, après, ça commence à rouler, enfin.
Et t'as dit à l'instant que, bah, entre guillemets, malheureusement, pour toi, la réussite, ça passer par la réussite financière.
Ouais.
Pourquoi malheureusement?
Parce que en fait, ben c'est une bonne passe D parce que ça va venir par la suite. J'ai fait un burn out, mais j'en parlerai dans quelques instants. Petit teasing.
réussite au prochain chapitre. Ouais, le burn out.
Voilà, prochain chapitre, le burn out. Et donc, en fait, il y avait réussite financière, mais aussi réussite sociale. En fait, montrer que je suis venue de cité, que j'ai fait un stage chez Air France KLM, mon projet pédagogique individuel chez Hermès, enseigner à Paris 2, arriver à Paris et jouer au 12e arrondissement de Paris dans un club de basket qui s'appelle le ministère des Finances, juste ça. Et donc voilà, je remplir toutes les cases où, quand j'étais petite, je voulais être pour montrer que une femme noire qui vient de la misère, etc., pouvait y arriver. En fait, je vivais que pour ça. Et j'ai perdu plein de potes pour ça parce que je voulais être la meilleure partout au détriment de ma santé et de mon entourage, de ma vie, alors que j'ai toujours grandi en équipe. Et donc, je fais mon stage final chez Dentons en contentieux commercial et droit et société. Ça me passionne parce que là, on a le côté dynamique qui me manquait en entreprise. Et en fait, je vais tellement bien faire que je me rends compte que ça ne me correspond pas. En fait, non seulement ça ne me correspond pas, parce que c'est pas mon quotidien, ça m'anime pas.
C'est quoi? C'est les clients, c'est les les types. Enfin, c'est vrai que t'es partie du droit des sociétés en mode bah moi c'est le donneur kebab du coin que j'ai envie de conseiller.
Oui.
C'est sûr que chez Dentons c'est pas le donneur kebab du coin que tu conseilles, c'est éventuellement le fournisseur de viande.
Oui. C'est clair.
De tous les donneurs kebab de la ville que tu conseilles. Et du coup, enfin et encore, je pense même pas qu'il soit chez Dentons. Donc c'est ça qui fait le décalage. C'est plus l'environnement hyper corporate. Enfin voilà, qu'est-ce qui
En premier, alors ça, je commence à me rendre compte que ça me plaît pas, même déjà quand je suis en entreprise, parce que je passais par des grosses boîtes comme Air France et comme Hermès, et c'est surtout les problématiques quotidiennes où en fait je me dis ça me stimule pas, ça me stimule pas. C'est quand même beaucoup de rédaction évidemment, mais moins d'expérience terrain. Et puis aussi c'est les enjeux financiers. Je me dis, mais là, je représente, alors ça, c'était plutôt en entreprise, des personnes qui vont gagner des salaires à 6 chiffres au quotidien. Moi, je gagne un salaire, je suis en stage, c'est normal, hein, de 3 voire 4 chiffres.
Je me dis, 4 chiffres, c'est genre, youhou, méga, méga bon stage.
Ouais, ah oui. Alors, moi, j'ai été très bien payée en stage.
Ah bah oui, chez Denton, c'était bien payé en stage.
On est très bien payé, mais en fait, je me dis, c'est pas possible, en fait, non. c'est mort, ça me va pas. Et en fait, je me dis, il faut quand même que je tienne parce que là, il y a mon emprunt qui commence à courir et donc je paye 500 euros par mois. J'ai mon salaire, mon loyer parisien à payer et en fait, ma santé me rattrape. Et donc, on est fin 2016, j'ai le CAPA. J'ai pas prêté serment, j'attends mon anniversaire en janvier 2017 pour prêter serment, mais en fait ça va tellement plus que je suis en arrêt de travail. Et donc
donc t'as poursuivi comme juriste, ouais. C'était chez Dentons aussi, ouais. Ou
j'ai poursuivi chez Dentons, ouais. En tant que juriste
et c'était dans l'attente de prêter prêter serment, ouais. Et de les rejoindre comme collaboratrice, ouais. Ou c'était
oui en fait les prémices du burn-out c'était pas à petit feu, hein. Je me rendais compte que ça n'allait pas, mais en fait, pareil, expérience antérieure, ben, on se bat, le travail avant tout. C'est juste que j'explose le 26 décembre 2016, grosso modo, et je me rends compte que je commence à avoir des vrais symptômes, hein, des œdèmes musculaires, des très mal à la nuque, j'arrive plus à me lever, etc. Donc, je suis en arrêt de travail. Pendant un mois, je prête serment quand même parce que je me dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mes parents arrivent. Mon père revient dans la photo et je reviens chez Dentons en février et en fait je me rends compte que je vais pas tenir. Donc je travaille encore pendant 6 semaines jusqu'à fin mars et après je suis en arrêt de travail pendant 6 mois. Un arrêt de travail du coup plus mesuré entre guillemets où je me suis dit bon il faut que je me pose. Maintenant ma vie commence en fait. Ma vie commence, j'ai rempli tout ce qu'il fallait, mes parents ont vu que j'étais avocate, mes sœurs ont vu que j'étais avocate, la société si tant est qu'elle s'y intéresse. A vu que j'étais avocate. et donc là, je me dis, est-ce que je vais continuer la profession ou pas? Et en fait, je me redonne une chance, mais 6 mois plus tard. Et après, j'ai différents cabinets successifs.
Ouais, on va en parler. Ouais. Juste, tu vois, sur le sujet du burn-out, est-ce que tu dirais que c'est un burn-out qui a pour origine, on va dire, l'intensité du travail dans le cabinet où t'étais? Donc vraiment, tu vois, énorme horaire, grosse pression et tout. Cumulé au fait que voilà comme tu l'as dit en fait ça fait des années que tu te bats pour tout cumuler donc c'est un environnement intensif dans lequel t'arrives sachant que t'es déjà entre guillemets un peu fatigué et que t'aurais enfin ouais. Tu vois probablement ton corps et ton esprit auraient eu besoin d'une pause même avant de faire ça. En tout cas, moi, je me souviens, à la fin de tous les stages, c'est vrai qu'il y a tellement cette espèce d'enchaînement où, en fait, t'enchaînes les stages sans vacances, ponctués d'examens, avec plus ou moins d'enjeux, mais quand même. Et en fait, c'est vrai que, t'étais naze, quoi, tu vois, quand t'arrives dans tes derniers stages, avant de commencer dans la vie professionnelle. Donc voilà. Est-ce que tu dirais que c'est, on va dire, l'accumulation de, tu te bats, et puis, à la fin, tu tombes dans un environnement vraiment très intense. Est-ce que c'est, au-delà de l'intensité, un burn-out qui est aussi, ou peut-être même principalement lié à une forme de désalignement, tu vois, entre, désalignement slash perte de sens. Enfin, tu vois, je dis ça. Moi, par exemple, j'ai fait. Moi, je pense que c'était pas un burn-out, c'était un bore-out. mais en fait, c'est à peu près les mêmes effets, quoi. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, ta cervelle fonctionne plus normalement et tu peux plus. Mais tu vois, je peux pas dire que c'était pour l'intensité du travail. C'était vraiment plus histoire d'ennui intellectuel, de désalignement et de, on va dire, mauvaise environnement de travail, pas hyper. Feel good, mais c'est pas parce que je faisais des horaires de fou et que je dormais pas, tu vois. Oui. Donc toi, tu dirais, comment est-ce que tu analyserais rétrospectivement
un peu tout ça. Alors j'arrive à l'école d'avocat, là je me repose un petit peu. Enfin, mais je m'ennuie assez vite. J'ai souvent besoin de faire des choses, donc je reprends les travaux dirigés, je continue le basket, etc. Mais j'arrive quand même assez fatiguée malgré tout. J'arrive assez fatiguée de la vie en stage final. J'arrive assez fatiguée.
Ouais, de la vie, quoi.
De la vie. Ouais. Vraiment, je suis fatiguée parce que je me suis battue. Et là, j'arrive, c'est le dernier tronçon du tunnel pour que j'ai une éternelle reconnaissance de toutes les personnes qui sont autour de moi parce que je vis encore plus. Alors aujourd'hui, je vis moins en fonction des autres, mais à cette époque, énormément. Une volonté de prouver, j'ai vraiment cette volonté très forte de prouver aux autres. Donc, je mets encore plus d'énergie, je pense, qu'une autre personne. Et donc, j'arrive fatiguée en stage final et je me dis, il faut que je donne tout parce que le côté recrutement va être difficile. j'ai dans ma tête toujours cette idée que je reste une femme noire et que je vais galérer à trouver une première collaboration. J'ai des stages, mais pas beaucoup. Je n'ai qu'un master 2. J'ai pas fait de LLM. J'ai pas fait d'école de commerce. J'avais pas les moyens de faire un master spé, etc. Donc je me suis dit que je suis quand même pas la fille prioritaire, quoi. Et donc j'arrive fatiguée et je donne tout pendant mon stage final. Dans mon stage final, l'associé qui était avec moi ne pouvait pas prendre de collaborateur dans la suite, il n'avait pas le budget. Donc, je me tourne vers d'autres équipes, mais il faut de nouveau que je fasse mes preuves. Et en juin, du coup, 2016, j'ai mon emprunt qui commence à courir. Donc, je me dis, j'ai pas le choix. L'autre équipe dans laquelle je vais en pénal des affaires et contentieux commercial me prend. J'y vais parce que je me dis que j'ai pas le choix, en fait, hein, clairement. Et en fait, j'ai pas de pause entre la fin du stage final et les épreuves du CAPA. Donc, je continue. Les horaires sont assez intenses, mais pas forcément occupés. Mais je finissais tard. J'avais l'impression de faire du présentéisme. Et puis, il fallait biler. Un terme que je n'ai pas utilisé depuis au moins 4 ans. en y pensant, là, il fallait biler. On a les objectifs d'heure. J'ai un premier CDD de 3 mois, donc qui finit... trois ou quatre mois qui finissent fin septembre. Ouais, fin septembre. Et je travaille tout l'été en parallèle, je révise pour le CAPA. J'ai les épreuves du CAPA qui commencent dès début juillet. Je suis tellement fatiguée à la fin de mon stage final que je confonds ma soutenance de stage. Je confonds mes deux soutenances de stage. J'arrive à la soutenance de stage de stage final et je pense que c'est celle du PPI. Donc je pars de tout mon stage final et on me dit... Mais attendez, vous avez été en cabinet pendant votre projet pédagogique individuel ? Je fais, ah non. Non, donc là, j'ai deux choix. Soit je recommence tout, soit je me suis vraiment trompée, je vous dis la vérité, je suis juste exténuée en fait. Donc mec, très sympa, les personnes qui étaient là, très très sympa, donc ça s'est bien passé et j'ai eu mon CAPA, mais c'était très dur. Je passe le CAPA en ayant 24 heures de révision pour la déontologie, parce qu'il y a des dossiers qui sont en cours, tu te rends pas compte, etc. Il y en a plein qui sont là, enfin... On te fait culpabiliser aussi. Et en fait, début octobre, je dis, mais en fait, là, ça fait 9 mois. Moi, j'en peux plus. Il y a des enfants qui naissent au bout de 9 mois. Mais là, moi, je vais mourir, en fait. Donc faites un choix. Mais moi, je peux pas. Et en fait, ça coïncidait avec la fin de mon CDD. Et on me dit, ça tombe bien, c'est la fin de ton CDD. Tu peux prendre 3 semaines de vacances. Et du coup, ce sera sans solde. Tu reprendras un CDD après. Et là, vraiment, sans zéro vanne, hein, quand je dis ça, je prends un billet d'avion le moins cher. Avec la plus longue distance, enfin le plus gros décalage horaire, et j'y vais, et je me retrouve à San Francisco chez un pote, et en fait je descends toute la côte ouest toute seule en voiture pour une petite anecdote. Et,
trop bien, ouais, j'ai fait ce voyage aussi, mais pas en voiture, ça aurait été genre mon rêve du dessus, ouais. mais j'étais, tu sais, aux États-Unis pour les assurances avant, ouais, un certain âge, oui. Louer une voiture, c'est genre du coup encore plus hors de prix, donc ouais. Du coup j'ai fait avec l'Amtrak, mais ouais. Très beau voyage, donc je comprends très bien.
Ouais, magnifique. Et moi, je savais pas où j'allais, hein, pour le coup. Mais en tout cas, très magnifique, très enrichissant et très ressourçant. Je dors chez l'habitant au fur et à mesure de mon voyage. Donc, je fais San Francisco, Los Angeles.
Tu fais du couchsurfing?
Ouais.
Tu fais du... Ouais, ouais. J'ai fait, mais on a fait le même voyage.
Je fais du couchsurfing. Et en fait, c'est essentiellement des personnes retraitées parce que c'était le moins cher. En tout cas, et c'était fou. Et en gros, je me retrouve... avec une personne que je connaissais pas, j'avais écrit sur Facebook à l'époque, je vais à la Vallée de la Mort, qui veut m'accompagner, une personne qui était avec moi à l'UFB, qui était de Strasbourg, mais on s'était jamais parlé avant. Et donc on fait 4 jours là-bas, chez un Indien de sang qui nous montre, qui vient vraiment, qui est Indien de sang et se coupe un bout du doigt. Bref. Et donc, on est à Los Angeles, je remonte, voie classique via autoroute à San Francisco, je fais une visite à Berkeley, de l'établissement. Et c'est là que j'apprends que j'ai le CAPA. Et donc, je me dis, c'est fini. Enfin, et je dis c'est fini. Et c'est pas enfin, ça s'ouvre, c'est fini. Et donc là, je me dis, j'annonce aux personnes qui sont avec moi dans le bus, parce que c'était que là qu'on avait le Wi-Fi, que j'ai le CAPA. Ils me montrent, la personne me montre le bureau pour m'inscrire en LLM. Et j'étais, mes frères, moi j'ai... 25 000 euros à rembourser, tu vas payer 110 000 dollars une année, je n'ai pas du tout les moyens. Donc bon, bref, en tout cas, ce voyage se passe comme ça, je reviens. Et là, j'ai un espèce de burn-out où j'ai l'impression que l'associé avec lequel je travaille m'en veut d'être parti et d'avoir passé les meilleures vacances de ma vie. J'avais laissé mon portable pro, de toute façon, j'étais sans travail entre les deux. Ouais. Donc, je ne prends pas du tout mon portable pro. Et en fait, là, je commence à travailler tôt. Le matin, je finis très tard, vers minuit, une heure, mais pour faire de la traduction, des recherches, et je me dis, je n'ai pas fait tout ça pour ça, en fait. Et en fait, j'essaie de me battre tant bien que mal, et je travaille 25 décembre, 26 décembre, jour férié en Alsace, et là, je me rends compte que c'est trop. Et je ne veux plus revenir. Je ne veux plus revenir. Et c'est là où tous les symptômes, en fait,
ont commencé.
Et voilà, c'était très compliqué.
Et donc, tu dis, là, se commence une période avec un arrêt de travail, enfin, un arrêt tout simplement assez long, où j'imagine tu te poses pas mal de questions de est-ce que finalement je prête serment, est-ce que quoi ou qu'est-ce. Bon, on comprend que t'as prêté serment, mais qu'est-ce qui fait que t'as redonné une chance à la profession d'avocat, tu vois?
Je me suis dit que c'était trop facile de faire croire, enfin, c'était trop facile d'avoir fait tout ça et d'abandonner à ce moment-là. En termes de fierté personnelle, très important. Et puis après, mes relations avec mon associé sont plus que détériorées. Il m'a dit que je n'étais pas faite pour être avocat, ou il fallait que je fasse certaines branches d'avocat, avocat pour les nuls, je ne citerai pas parce que ça ne vaut pas du tout le coup, qu'il ne fallait pas que j'oublie que... Et ça, ça a été la phrase de trop. Qu'il ne fallait pas que j'oublie qu'en seconde, j'avais appris que 95% des enfants faisaient le même métier que leurs parents, donc peut-être que tu pourrais faire la même chose, donc ou ouvrier ou femme de ménage.
Mais
Et là, je me suis dit non, mais c'est trop. Et rien que pour ça, je me suis mise en arrêt juste après. Et là, je me suis dit, bah, en fait, non, là, ça va être un arrêt où je vais vraiment kiffer. Et en gros, me connaître, savoir ce que je veux vraiment faire. Et c'est grâce à tout ça que j'ai redonné une chance à la profession d'avocat.
Comment t'as géré financièrement ces 6 mois sans revenu, du coup?
C'était horrible.
Ça a été l'échec du business plan.
Ah ouais, c'est, alors,
ça a été genre, le business plan était déjà genre...
Ouais,
genre chaud. Un peu chaud, mais là c'est le moment où tu l'as enterré, quoi.
Et là, c'était vraiment la hesse, comme disent les jeunes, donc la misère, quoi. Où en fait, bon, bah, là mon emprunt avait commencé à courir. J'avais essayé de geler, on m'a dit ben non, mais Madame Tapili, vous savez pas gérer votre argent, c'est pas mon problème. Ok, merci. Et avant il y avait pas le Covid, donc il y avait pas des solutions bis, disons ça comme ça. Et j'avais pas pris d'assurance perte de collaboration, donc je suis vraiment passée à mon énorme rétrocession de cabinet américain aux 1 800 € mensuels de l'ordre. Et c'était très, très compliqué. Et j'en ai vraiment...
Attends, 1 800 € mensuels de l'ordre parce que c'est une couverture sociale que t'as...
Ouais, c'est la couverture sociale de l'ordre. Et j'avais à un moment les indemnités de journalière de sécurité sociale.
Je savais même pas que tu pouvais avoir ce genre de couverture quand en fait t'as à peine exercé, tu vois. Enfin, mais bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails du droit de la sécurité sociale de l'ordre, mais en tout cas,
c'était grâce à ça.
C'est cool que t'aies déjà eu une espèce de petit coussin d'amortissement pour couvrir à peu près tes charges fixes hors tu vois, ton logement, de quoi manger.
C'est tout ce que j'ai couvert. Ouais. C'est vraiment tout ce que j'ai couvert. J'ai même hésité à reprendre des études pour avoir la bourse, pour te dire. C'était vraiment le bordel. Et en plus, ma mère m'a finalement donné de l'argent, mais plus tard. Mais pendant mon arrêt de travail, je refuse que ma mère me donne de l'argent. Mais j'avais repostulé, parce que pendant mes études, j'avais travaillé chez Zara. Donc j'avais repostulé chez Zara. J'avais repostulé dans des piscines pour faire du ménage. Enfin, je m'étais dit, il faut que je gagne de l'argent. Mais il fallait aussi que je pense à moi, quoi.
Ouais.
Donc c'était très difficile de mêler tout ça. Mais je me suis dit, en fait, tant que j'ai la santé, tant pis, ce sera pour plus tard, en fait. Et finalement, j'en ai bouffé pendant les 3 années qui ont suivi, en termes de rattrapage, au niveau des impôts, au niveau de l'URSSAF, etc. Je pense que ça va mieux depuis ma 4e année de bar, quoi.
Ouais, putain, ça t'a mise dedans sur du long terme, quoi.
Ouais, mais en fait, si tu veux, pendant mon arrêt de travail, et ça a été entièrement... ça a été un tournant dans ma vie. Bah, déjà, j'ai clairement suivi une psychanalyste, donc voir un psychiatre... Ça m'a fait du bien. Et puis, en fait, j'ai une personne qui m'a dit, dans le cadre du basket, mais vu que tu ne fais rien de tes journées et que tu es en train de devenir un légume, mais viens m'aider bénévolement au sein du basket, etc. Et en fait, j'ai appris à vivre. Alors, ça fait très phrase feel good, comme vous voulez, etc. Mais en fait, je me suis dit, OK, je gagne pas d'argent, mais je m'épanouis au quotidien. Ça m'épanouit d'être sur les terrains de basket, ça m'épanouit de reprendre le basket parce que j'avais dû arrêter pendant ma collaboration, très courte finalement, mais en tant que juriste, j'ai dû arrêter les travaux dirigés aussi parce qu'il fallait que je sois là 24h/24 pour le cabinet. Et donc, je me suis dit que j'allais reprendre tout ça en fait et que ça allait mieux, que je reprenais du poids parce que j'avais perdu du poids. Et la suite viendra.
Ouais. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, je pense que c'est potentiellement un message à faire passer à beaucoup de jeunes
Ouais.
avocats, qui est que les premières années d'exercice, elles sont difficiles.
Ouais.
Mais au-delà d'être difficile, enfin, c'est pas obligé, et faut pas
Ouais.
non plus. J'ai pas envie de cultiver l'image de c'est obligé, que c'est difficile et tout. Mais le fait est, et comme n'importe quelle arrivée dans la vie
Bien
professionnelle,
sûr.
en fait, c'est dur parce que juste il faut apprendre les codes du monde du
Ouais.
travail et les apprendre de façon un peu plus sérieuse que juste quand tu fais des stages, tu vois,
Bien
où
sûr.
oui, tu commences à les apprendre, mais voilà. Enfin, il y a une grosse marche à passer pour passer de élève avocat, enfin, entre guillemets, étudiant de fin d'études à ben, jeune professionnel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est dur, et c'est, entre guillemets, normal que ce soit dur, ce qui ne justifie pas n'importe quoi,
Ouais.
juste précisons-le. Mais que ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant ces premières années.
Bien sûr.
Et ça peut être des départs vers la prof, enfin, des départs de la profession, ça peut être de réajuster la manière dont on exerce. Et je pense que, enfin, moi, si j'avais un conseil à donner aux jeunes avocats qui commencent dans des grosses structures où ils sont très bien rémunérés et tout, c'est de, enfin, c'est de pas caler leur niveau de vie sur cette rémunération-là,
Oui.
et enfin, voilà, d'être financièrement parlant, en fait, assez conservateur, pour se laisser la possibilité, sans que ça ait un impact, enfin, tu vois, sans que ça devienne un emboulé sur du long
Ouais.
terme, de pouvoir voilà, aller exercer dans des cabinets qui vont offrir un autre type de conditions de travail et potentiellement une rémunération moins importante également, de, tu vois, pouvoir faire une pause si besoin, enfin voilà, en tout cas tout ce qui parce que ce que tu racontes, enfin voilà, ça peut arriver, et franchement, et bien évidemment, t'as eu raison de prendre soin de toi et de ta santé et tout, mais c'est sûr que, tu vois, si en plus t'avais commencé ta vie professionnelle et tout de suite tu t'étais mise dans un espèce d'appart, tu vois, qui coûte une fortune, et que t'avais, enfin, voilà, genre, bon, là au moins t'as pu baisser ton niveau de vie et te dire, bon, je vais apprendre à être heureuse avec pas grand-chose, juste le temps de me remettre, et bon, après il y a eu les histoires, les impôts, l'URSSAF et tout, enfin, c'est un peu tous les trucs qui, mais enfin, t'as pas empiré la situation, quoi.
Non, et puis tu te sens bien, donc tu es prêt à affronter ces difficultés sans que ce soit c'est un problème, certes, mais tu accuses mieux le coup. Et tu as totalement raison, en fait, de donner ce conseil. Je pense que il faut s'écouter et peut-être y aller doucement, en fait. C'est un saut vers l'inconnu, et comme toute personne qui apprend à conduire, par exemple, ou apprend à marcher, ben, à part Kirikou, en fait, il n'y a personne qui speed, en fait, quand qui commence à marcher. Donc, il faut y aller doucement.
Donc tu dis environ 6 mois de pause, donc ça nous amène, on va dire, à l'été 2017, quelque chose comme ça. Comment tu te remets en mouvement? Enfin voilà, comment tu raccroches les wagons et comment tu recommences à exercer?
En fait, bon, alors il y a ce côté basket qui me prend du temps, enfin qui occupe mon temps. Ça me prend pas du temps, ça occupe mon temps, et donc je commence à aller mieux, à être sur les rails. Je commence à apprendre à rekiffer la vie. Il y a l'été qui arrive, il y a les apéros parce que j'ai une autorisation de sortir quand même. La vie sociale fait beaucoup, et donc je suis au ministère des Finances au basket parce que 12e arrondissement et c'est là où j'habitais. Et je vois des postes, toujours en droit et société pour le coup, volets conseil et via la direction générale de l'entreprise, pardon. Et ça me rappelle ce que je m'étais dit quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me rends compte que il y a quelque chose qui manque. J'ai pas envie d'être derrière un bureau tout le temps, en fait, derrière mon ordinateur ou être au téléphone. C'est cool d'être au téléphone, mais moi, c'est pas ça qui m'anime à 100% au quotidien. Et je me dis, ben là, ça va mieux. Et donc, je vais quand même prendre le temps de trouver un cabinet qui me convient. C'est plus le cabinet qui va me choisir, c'est moi qui vais également choisir le cabinet. Et ça, j'avais jamais pensé à ça dans toutes mes expériences antérieures auparavant. Et donc, je passe plein d'entretiens. Et en fait, je vais chez Liberato Avocat, qui est un cabinet d'avocats notamment. Et en fait, gros feeling avec les associés avec lesquels je passe entretien. Et donc, c'est comme ça qu'en septembre 2017, je les rejoins. Et je vais là-bas pendant 2 ans. Et ça se passe bien.
En fait, qu'est-ce qui t'a plu chez eux?
De faire du conseil, mais aussi du contentieux avant tout. La rémunération, moitié moins. Mais je me dis, mais en fait, là, je m'en fiche complètement de gagner moitié moins. L'essentiel, c'est que l'environnement me convienne et que ça se passe bien. L'ambiance aussi, on est sur un cabinet beaucoup plus petit qu'un cabinet américain. C'est une structure où il y avait à l'époque 6 personnes. Maintenant, ils ont grossi, mais avant, c'était... il y avait moins de personnes. Et donc, le fait de communiquer avec tout le monde au quotidien, de partager des déjeuners avec eux, des activités, etc. Donc très cool. Et en fait, ça se passe bien en termes ambiance. En fait, c'est la clientèle qui me plaît plus au bout d'un moment parce que la clientèle sont nos confrères. Et je pense que c'est comme un médecin qui ausculte un médecin. C'est très compliqué de défendre un confrère. Surtout quand on est jeune confrère à l'époque et que le confrère en question est beaucoup plus âgé.
Et c'est compliqué parce qu'ils remettent en permanence en question tes conseils, ils pensent toujours savoir mieux que toi.
Oui, il y a un ego très fort chez les avocats. Et bon, je m'en rends compte aussi, hein, j'ai un ego qui est quand même assez, assez important, mais très compliqué à gérer. Et en fait, ça ne m'anime pas, ça ne m'anime plus. En fait, au bout d'un moment, je me dis non, mais... moi, je veux retrouver mon kebab du coin, en fait. Et là, je m'en rends compte vraiment. Et là, je pars en 2019 et je me dis, bah, c'est bon, maintenant 30 ans, je sais ce que je veux, en tout cas à ce moment-là. Et donc, je cherche une structure où on accompagne les entrepreneurs. Et donc là, je vais en septembre 2019 chez Lennox Avocat. Et là, on est deux avec Anne-Sophie. Et en fait, c'est une expérience formidable.
Vous êtes deux, tu veux dire, il y a ta collaborante et toi.
Alors, je suis sa collaboratrice et elle est associée.
Il y a donc toi, une autre collaboratrice et l'associée.
Même pas, encore moins, Lila Louise. Encore moins, il y a moi, seule collaboratrice et Anne-Sophie qui est mon associée.
Ouais.
Avec laquelle je travaille. Et en fait, expérience formidable. Formidable. Je suis à temps partiel. Je suis aussi dans un autre cabinet qui s'appelle Impulsa qui se lance à l'époque.
Attends, donc grosse. Donc tu quittes Librato et tu.
Je vais sur deux temps partiels.
Tu vas sur deux temps partiels.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui fait que tu te dis je vais sur deux temps partiels? Est-ce que c'est parce que t'as pas réussi à trouver une collaboration, on va dire full time, dans un cabinet qui réponde à ce que tu attends en termes de type de clientèle et d'opérations réalisées? Est-ce que c'est parce que t'as eu ces deux propositions pour deux cabinets différents et tu t'es dit mais vous plaisez tous les deux, du coup est-ce qu'on peut pas faire moite-moite des deux côtés? Enfin tu vois qu'est-ce qui...
En fait, eux deux étaient indépendants, enfin à leur compte plutôt, pas indépendants parce qu'ils sont en structure, et cherchaient une collaboratrice mais à temps partiel.
Et ils se connaissaient?
Oui,
ils se connaissaient. Ah, ok.
Oui, oui.
Okay. On en a aussi des... Enfin, oui, oui. On en a. On a des configurations un peu similaires dans Iris et Thémis, parfois, avec effectivement des personnes qui partagent des locaux et qui sont dans des expertises similaires. Et en fait, c'est un premier recrutement et du coup, démarrage. Voilà, donc c'est deux structures différentes. Mais non, j'avoue que ça m'aurait... j'aurais trouvé ça, entre guillemets, assez particulier si t'avais répondu à deux offres de mi-temps différentes. parce que là, je me serais dit, ok, c'est se compliquer la vie, mais pourquoi pas, on peut avoir un énorme coup de cœur et voilà.
Non. En fait, ils se connaissaient et ils cherchaient tous les deux une collaboratrice ou un collaborateur à temps partiel. Anne-Sophie est accompagnatrice d'entrepreneurs, conseil et contentieux, droit des sociétés et droit social que j'avais pu faire auparavant, mais pas beaucoup. Et Jean-Baptiste Barcy, lui, full droit des sociétés. Et lui se lançait à l'époque. Et donc, moi, je me suis dit, bah, why not? Parce qu'en fait, moi, je veux accompagner les entrepreneurs et j'adore le deal, donc j'y vais. Je me dis, 30 ans, maintenant, je sais vers où je veux aller. Et donc, formidable. Avec les deux, formidable. Ça se passe très bien parce qu'en plus, je suis leur seule collaboratrice, mais je commence à avoir un petit peu de bouteille. J'ai un petit peu de bouteille, 2 ans de
barreau. T'as 2 ans de barreau, ouais.
Oui, mais ça va.
Oui, mais c'est le... Enfin... Je vais te dire, moi, mon regard de recruteuse, entre guillemets, via Iris et Thémis, tu n'imagines pas le nombre de clients. Enfin, c'est le profil rêvé pour eux parce qu'à 2 ans de barreau, t'es entre guillemets dégrossi, t'es, tu vois, plus autonome sur tout un certain nombre d'opérations qui peuvent te confier, tu vois, où il n'y a pas une espèce de complexité telle que, voilà, donc tu peux rapidement et facilement les décharger d'une certaine charge de travail. Et en même temps, t'es encore adaptable à leur méthode de travail et leurs attentes et leurs process internes. Tu vois, t'as pas assez consolidé un certain style de travail qui fait que, bah, eux, ils peuvent pas t'inviter à travailler à leur manière et à leur patte. T'es à la fois un petit peu expérimenté, mais ta rétrocession d'honoraires est encore absorbable pour enfin tu vois c'est pas une charge qui fait que tu réfléchis à 15 fois et tu demandes 4 fois l'avis de ton expert comptable avant de te dire bon allez vas-y je fais cet investissement enfin tu vois c'est en vrai c'est un peu un sweet spot les 2 ans de barre parce c'est un bon équilibre quoi donc oui t'es un peu expérimenté t'es pas non plus hyper expérimenté mais comme tu le dis ça fait que t'as l'aisance de pouvoir être leur bras droit de façon un peu plus voilà.
Ouais et bah ouais c'est vraiment comme ça que je me suis sentie envers les deux et en fait alors petite particularité par rapport à Anne-Sophie c'est que elle est beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et sociale. Disons que moi pendant mon activité chez Librato, donc je reprends le basket, je suis dirigeante de club, aucune difficulté pour eux, et je suis des formations pour être dirigeant au sein du basket. Et en fait, on avait fait un test de couleur, les méthodes DISC.
Ouais. Et moi, je suis jaune à fond.
Ouais, bah voilà, moi, je suis jaune. Moi, je suis jaune à fond. Et en fait, Anne-Sophie, elle me pose la question pendant l'entretien. Et je me dis, mais qui connaît ça? Quel avocat connaît ça, en fait? Je dis, mais moi, je suis jaune. Et elle me dit, ouais, mais moi aussi, je suis jaune. J'ai fait, alors, il faut me recruter, Anne-Sophie. Grosso modo. Même si j'étais en PLS, parce que j'avais trop peur, je voulais trop qu'elle me prenne. Et donc, on était toutes les deux jaunes. Et donc, c'était impressionnant. Et en fait, elle, ses clients, c'était aussi via les couleurs. Et donc, c'était impressionnant. Jean-Baptiste, très bien aussi, mais expérience beaucoup plus traditionnelle. Et en fait, on est en février 2020. Et en fait, Anne-Sophie, elle a une recrudescence de clients et elle se dit que, soit on continue ensemble à temps plein, grosso modo, soit il faut faire, enfin moi il faut recruter quelqu'un d'autre et deux temps partiels c'est difficile et donc là j'ai le choix monstrueux à faire entre Anne-Sophie et Jean-Baptiste et je suis mon instinct jaune et je vais chez Anne-Sophie et donc je passe chez Anne-Sophie à temps plein et en fait elle me prend vraiment, enfin avec Jean-Baptiste aussi il me prenait comme son bras droit mais en fait j'étais avec elle sur tous les rendez-vous clients et Jean-Baptiste pareil hein, bien sûr mais il y a un fit qui est quand même beaucoup plus fort avec Anne-Sophie, un fit émotionnel et j'ai énormément appris avec elle les expériences contentieuses que j'ai eues avec elle où j'ai plaidé etc. C'était très très fort pour moi et je pense que c'est elle qui a été très importante aussi sur la manière dont je suis collaboratrice chez Bold aujourd'hui. Et pendant le Covid, il y a des difficultés financières. Et en fait, parce que bon, les entrepreneurs subissent le Covid, ça a un effet boule de neige vers le cabinet. Et donc, ma collaboration prend fin à la fin du premier confinement avec Anne-Sophie. Et là, mon cœur en est meurtri. Mais on est toujours en contact aujourd'hui, on s'entend toujours très bien. Et en fait, le jour où il y a la collaboration qui se termine avec Anne-Sophie, où elle me dit « bon, ben, il faut que je mette un terme à ta collaboration, excuse-moi ». Ça m'émeut en vrai cette histoire parce que c'est une personne que j'apprécie énormément et que j'adore énormément. Et le soir même, il y a une offre pour Bold sur LinkedIn et je me dis « mais en fait, il y a toujours quelque chose qui nous attend ». Et c'est là où moi je me dis ben, « je me connais, je sais ce que je veux et je postulerai que dans 2 cabinets en fait après ». Et de l'autre côté, je parle énormément, désolée.
Bah, c'est le concept du podcast, je sais que tu parles énormément. Enfin, il n'y a pas de troisième invité sur qui tu es en train d'empiéter, tu vois, a priori.
Et donc, on est le 14 juin 2020 et ce jour même, il y a l'offre de recrutement chez Bold. Et en gros, je me dis, je m'installe, alors que je m'installe par dépit. Hein, je ne sais pas du tout pourquoi je me dis ça, d'ailleurs. Soit je fais ça, soit je passe la passerelle pour devenir magistrat parce que jusqu'à cette année, il y a la possibilité de passer une passerelle via un concours externe. Soit je postule dans un autre cabinet, mais vraiment un cabinet qui me correspond. Et en fait, Bold, j'avais appris à les connaître parce que via ma casquette de basketteuse engagée, je suis dans une autre association qui s'appelle Ladies and Basketball, où on a suivi un programme d'incubation chez Hello Willa, et Bolt faisait des office hours. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop comme ça que je veux aider les entrepreneurs aussi. Et ça me rappelle encore une fois le donneur kebab, qui est accompagné par des professionnels.
Ouais, version tech, mais ouais, version tech, oui. mais c'est carrément le principe, ouais. Et c'est, enfin, juste, je souligne, mais tu vois, nous avec Iris et Thémis, on a plein de clients qui sont presque un peu timides de dire, bah voilà, nous on accompagne les TPE, PME, ouais. Tu vois, bah oui, c'est le commerçant du coin. Enfin, tu vois, ce côté un peu. Bah voilà, petites et moyennes entreprises, rien de très bling, bah juste des boîtes dont d'ailleurs il y en a plein qui fonctionnent très très bien, enfin je veux dire voilà, et puis bah qui sont des petites structures, qui ont pas forcément la capacité de proposer des grosses rétrocessions d'honoraires, et c'est vrai que enfin voilà, nous on leur dit, mais franchement, bien valoriser votre offre, il y a des personnes, c'est ça qu'elles veulent, et c'est comme ça qu'elles veulent exercer, quoi. Donc bon, je tombe pas dans le discours un peu bisounours de la rétrocession n'a aucune importance, oui. Et tout, faut pas, enfin je veux dire, il y a quand même un moment, il y a une réalité économique, et il y a pas de raison que enfin voilà, la rémunération, ça fait partie des éléments qui sont pris en compte, et à juste titre, par les jeunes avocats et les collaborateurs, mais clairement, le côté l'avocat du quotidien, du tissu économique de base français, il y a plein d'avocats qui veulent ça, quoi, au contraire cette attention très forte, et donc en fait c'est ça que vous allez leur offrir, c'est ça qu'il faut vendre, et il faut y aller à fond plutôt que de se cacher derrière tu vois des belles PME, tu vois, genre non mais vas-y, dis-le, quoi. Et encore une fois, donc voilà, bref, il y a l'occasion de rappeler que
il y a pas que les sociétés du CAC 40, en fait, hein, donc et là j'avais envie de te dire, mais pourquoi ces personnes sont un peu timides de dire des TPE, PME, alors aujourd'hui il y a la casquette start-up qui rattrape tout ça, mais en fait il y a pas que la start-up qui va lever 4 millions.
Ouais, et encore, je trouve que start-up, moi je lutte un petit peu contre le fait de parler de start-up quand tu parles juste d'entreprises qui sont en phase de création, tu vois. Une entreprise en phase de création, bah c'est une TPE, enfin tu vois, genre nous Iris et Thémis, on se considère plus comme une TPE que comme une start-up, tu vois, parce que, enfin je veux dire, c'est pas parce qu'on a aussi un produit digital et que voilà, que c'est pas la même logique de scalabilité, c'est juste pas du tout la même dynamique, donc voilà, c'est un peu des, tout ça c'est un peu de la novlangue pour donner un genre de vernis plus sexy aux choses, et d'ailleurs il y a un backlash, hein, parce que moi je vois aussi de plus en plus d'avocats qui au contraire veulent complètement fuir le côté écosystème start-up, tout ça, en disant mais les start-up c'est des mauvais clients, c'est des mauvais payeurs, c'est pas eux qu'on veut, on veut des entrepreneurs genre les pieds bien dans la terre, qui ont un vrai business model, qui font rentrer du cash et qu'on peut accompagner de manière
artisan, quoi. et ça fait notre économie, en fait, sans eux on mange pas de pain le matin, par exemple,
c'est clair.
Donc, mais ouais, et t'as totalement raison de souligner ça, parce que moi, j'ai pas mal d'écueils par rapport à ça. C'est déjà, t'as quitté un cabinet américain pour travailler pour des petites boîtes, et j'ai fait, et en plus, je gère leurs problèmes de merde, en fait. Hein. Désolée de la vulgarité, mais c'est, moi, c'est quelqu'un qui ne paye pas, mais il faut qu'il soit accompagné. Il n'y a pas que des plateformes, etc. Il y a aussi deux entrepreneurs qui vont s'embrouiller. Ça existe aussi, hein, c'est des conflits d'associés. C'est juste que vous mettez des gros termes, mais c'est ça. Et il y a ces mêmes sujets dans les grosses entreprises ou dans des gros cabinets. Et en fait, il ne faut pas avoir honte de dire ça. Moi, ça me passionne. Et c'est ce que je dis souvent. Moi, je me compare. Alors, bien sûr, je ne me compare pas à n'importe qui. Mais à Gabrielle dans les Desperate Housewives, où je suis à côté, en train de boire mon thé. Et quand je vois des embrouilles, j'essaie d'accompagner la personne qui a besoin de moi, en fait. Alors, bien évidemment, ma vie n'est pas dans une villa ou dans un suburb américain, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est la vie, en fait. Et moi, c'est vraiment ça qui m'anime. C'est pas les problèmes sur la bourse ou avec Euronext, etc. C'est vraiment les embrouilles quotidiennes. Et c'est pas grave. Ça te plaît pas, tu prends la porte ou tu t'en vas. Tu me laisses.
Et donc voilà, donc il y a cette offre chez Bold, enfin voilà, dont tu as connaissance. Ah oui, et juste si on peut revenir dessus, mais enfin, tu vois, tu dis que cette collaboration où tu te sentais si bien, encore avant, c'est pareil sur ce sujet des mi-temps. C'est vrai que c'est un petit peu le, enfin, nous on fait toujours un warning à nos clients en mode oui, attention parce que le mi-temps, enfin, on comprend que vous y alliez dans un premier temps parce que ça vous fait peur de sortir la trésor pour un temps plein, mais a priori si vous êtes dans une dynamique de croissance, le mi-temps. Ou c'est quelqu'un qui est dans une dynamique d'installation de son côté et dans ces cas-là, ben ce sera difficile pour vous si ça grossit de la rattraper en temps plein parce elle en fait ce sera un truc d'appoint le temps de lancer son activité ou en tout cas c'est il y a cette espèce de risque donc en tout cas tu avais rejoint donc cette fameuse Anne-Sophie et tu dis que bon bah il y a eu les difficultés financières du Covid et que malheureusement elle a dû entre guillemets se séparer de toi parce que elle-même a rencontré des difficultés économiques à la suite des difficultés économiques de ses propres clients. Est-ce que même si t'as rapidement vu comment t'allais pouvoir rebondir derrière avec Bold et une autre opportunité à laquelle tu as postulé, est-ce que la communication a été telle entre vous que en fait vous avez pu en parler bien et que ça a pas créé tu vois un espèce de conflit, enfin comment ça s'est passé à ce moment-là pour toi?
C'était très dur parce que moi j'étais un peu dans le déni, j'ai subi une rupture en fait hein. C'était une rupture alors pas amoureuse parce que Anne-Sophie j'adore mais je ne suis pas amoureuse. Mais elle m'en a tout de suite parlé. J'ai vu qu'elle était très touchée aussi. Même si je pense qu'elle a vraiment essayé de faire le mieux qu'elle pouvait, elle a étudié toutes les possibilités et je pense qu'elle a travaillé la manière d'en parler, la manière de communiquer parce que je sais que pour elle c'est très important, mais que malgré tout la connaissant, j'ai vu quand même sa tristesse et elle m'a beaucoup aidée pour les autres. Pour la suite, pour les offres. Elle m'a tout le temps soutenue. Elle m'a dit, écoute, si tu veux aller là, vas-y. Si tu veux, je me renseignerai de mon côté. De toute manière, je te laisserai jamais dans la nature. Et même là, 4 ans plus tard, on s'écrit très souvent, etc.
Ouais.
Et aussi, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Et ça, c'est un warning pour les personnes qui font du mi-temps. Il y a des mi-temps qui sont aussi des mi-temps qui traînent sur « non, mais si tu fais exceptionnellement un jour de plus, c'est pas grave, etc. » Ça n'a jamais été le cas ni du côté d'Anne-Sophie, ni du côté de Jean-Baptiste.
Ça a été des
vrais mi-temps. Et même du mi-temps au point où chaque fois quand j'étais chez eux, je disais « attention, là j'ai des travaux dirigés, donc je vais pas rattraper l'autre côté. » Mais c'était même pas un sujet pour eux, c'était c'est décompté, décompté pas financièrement, hein. Mais c'est du temps moins au cabinet, mais on le sait, on t'a embauché. En le sachant, il n'y a pas de difficulté. Si tu veux développer de la clientèle perso, tu peux.
Oui, c'était un vrai mi-temps à la fois par le fait qu'ils ne cherchaient pas à déborder.
Oui, jamais.
Et que en fait tu te retrouves à travailler plus qu'un mi-temps,
mais
c'était aussi un vrai mi-temps dans le sens où c'était pas un mi-temps qui du coup au passage sucre l'aspect libéral de la collaboration, parce que effectivement du coup tu peux te retrouver avec moi j'ai mon petit combat sur le temps de travail dans la collaboration libérale parce que je trouve ça fou que ce soit flou et que ce soit pas préciser, mais c'est vrai qu'il y a une pratique qui est celle que sous couvert que c'est un mi-temps, du coup le mi-temps ou le temps partiel que t'es sur le cabinet, en fait on en oublie que tu peux avoir de la clientèle perso et des activités perso aussi sur ce périmètre là. Et donc toi ça a été, enfin ils ont été hyper réglo à la fois parce qu'ils t'ont permis de parce qu'ils t'ont pas sollicité en dehors du temps de travail prévu et en plus parce que sur ce temps pour eux tu pouvais aussi maintenir des activités qui correspondaient entre guillemets à ce qu'on va rentrer dans le pack activités perso développement perso. Super réglo, c'est bien de le souligner.
En plus qu'on est fin 2019, Anne-Sophie est en congé maternité, après on a les grèves
des avocats avec la retraite
retraite, là les grèves SNCF où on marchait des heures et des heures pour aller à la gare et tout ça, Anne-Sophie elle a...
C'était couvert, quoi.
Tout, elle a tout couvert.
Elle a encaissé, ouais.
C'est, enfin, pour moi, de toute façon, c'est un modèle aussi. Qu'elle entende ou qu'elle n'entende pas ce podcast. et donc, ouais, et donc pendant mon préavis, etc., elle m'a énormément soutenue. En termes de négociation, pendant les entretiens, etc., même si ça n'a pas été un sujet, mais en disant, fais attention à ça, ça et ça, je commence à te connaître. Ne sois pas trop gentil, etc. Et donc, ouais, jusqu'à mon départ officiel du cabinet en août, à la fin de mon préavis, eh bien, elle a été là, quoi.
Ouais. Non, mais c'est quand même bien la preuve que, en fait, le problème, c'est pas qu'une collaboration se termine. Le problème, c'est qu'elle se termine en jus de boudin parce qu'il n'y a pas de communication, parce que t'as quelqu'un qui rencontre des difficultés financières et qu'en parle pas et qu'il y a un moment où tout d'un coup le couperet tombe et ça devient genre l'urgence que la personne parte et enfin tu vois il y a rien qui est un peu pensé, il y a pas d'huile qui est mise, il y a pas d'aide qui est apportée et tout alors que ben en réalité enfin s'il y a une difficulté qui est rencontrée et qu'elle est parlée et que et qu'en plus il y a tout ce qui est fait pour entre guillemets accompagner la personne vers la sortie de la manière la plus soutenante possible il y a aucune raison que ça se passe mal. Enfin, je veux dire n'importe qui qu'on peut comprendre qu'une entreprise. Enfin, voilà. Encore une fois, la manière importe plus que le fond, quoi.
Ouais, vraiment. Et c'est une vraie sortie par le haut. Et elle m'a même filé des dossiers perso pour combler si besoin, quoi. Si j'acceptais pas à Bold, par exemple.
Ouais.
Donc.
Ouais, trop bien.
Ouais.
Non, mais c'est. Enfin, encore une fois, franchement, j'insiste dessus. Moi, c'est pareil, tu vois. On a des clients qui nous disent oui mais voilà c'est mon premier recrutement et mais j'ai peur parce que j'ai pas envie de recruter la enfin c'est un pari tu vois de recruter un premier collaborateur et oui mais si du coup la croissance est pas au rendez-vous derrière bah j'ai peur que en fait de devoir mettre fin à la collaboration moi j'ai pas envie de recruter quelqu'un pour le limoger dans quelques mois et je lui dis mais bien évidemment que vous recrutez pas quelqu'un pour dans la perspective de le virer dans 3 mois enfin ça n'a aucun sens et c'est pas du tout l'idée bien évidemment il faut pas le faire à la légère et l'idée c'est pas juste faites-le en ayant une bonne connaissance de vos chiffres et c'est pas le premier mois d'accélération qui fait que ok c'est bon on peut embaucher 3 personnes mais si vraiment dans quelques mois en fait pour une raison ou pour une autre c'est pas viable pour vous de maintenir la collaboration telle qu'elle est le problème ce sera pas ça le problème c'est si vous n'en parlez pas et si vous subissez le truc et si tout d'un coup ça se transforme en ciao bye bye et puis là ce sera un problème mais ça fait partie de la vie quoi exactement
mais comme dans toute profession finalement
exactement
tu te lances alors pas dans la Startup Nation mais tu te lances tu crées une structure tu sais pas de quoi va être fait l'avenir en fait donc voilà.
Et t'as dit que t'avais passé des entretiens donc à la fois chez Bold et dans une autre structure.
Ouais, c'est tout.
Et voilà, et c'est tout. Et donc juste dans ces deux-là, parce que t'avais identifié que c'était ce type de accompagnement des jeunes pousses,
entrepreneurs, conseil contentieux, avec mes exigences, parce que j'arrive chez ces deux cabinets où je leur dis bon alors Kadiatou, 31 ans. Pas vénère de la société, mais maintenant qui sait qui elle est. Donc, elle dit tout de suite qu'elle est dirigeante de club, qu'elle est joueuse de basket, qu'elle est chargée de travaux dirigés, qu'elle est élue au comité parisien de basketball et qu'elle est engagée dans le basket de manière générale et qu'à côté, il y a ma vie personnelle. Donc, donc voilà, je dis tout ça. Et en gros, les gars, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je sais que j'ai pris 2 cabinets et c'est vous que je veux. Sachant que chez Bold, l'annonce, c'était pour faire contentieux 100%. Moi, c'est ce que je voulais, mais aussi des beaux commerciaux, un peu moins, mais pourquoi pas. Et ils cherchaient quelqu'un avec 2 ans de barre. Donc moi, je postule avec mes 3 ans de barre, quasiment 4 ans de barre. Je postule chez eux parce que c'est ce que je veux faire et je veux participer à ce que je voyais chez Eloïla aussi. C'était ça qui m'animait beaucoup. Et dans l'autre cabinet, c'est à peu près la même chose. Et donc là, je passe sur un harcèlement sans nom. Je les appelle tous les jours, que ce soit Bold ou l'autre structure. Et j'ai une offre des deux. Et en fait, je choisis Bold alors que l'autre cabinet, la rétrocession était plus intéressante avec... non, en fait, il y avait juste ça. Il y avait juste la rétro qui était plus intéressante. Et en fait, ce qui m'avait énormément séduit chez Bold, c'est qu'ils ont tout de suite parlé de la liberté à côté. Ils m'ont dit, mais en fait... oui, c'est bien que tu me dises tout ça, mais déjà, j'ai vu ton CV. Et puis, nous, c'est pas du tout un sujet. Tu fais comme tu veux, grosso modo. Et donc, je me suis dit, go Bold, en fait. J'ai pas trop tergiversé. Anne-Sophie a été très, très importante dans ce choix parce que c'est bizarre arriver à 31 ans, bon, je commençais à avoir de l'âge, de la bouteille et tout, mais d'avoir enfin le choix. Parce que, en fait, je me suis dit dans les autres, j'avais un peu le choix, mais pas trop. J'ai fini de rembourser mon emprunt à ce moment-là aussi. Donc, je me dis, là, je peux commencer à vivre, c'est du plus, en gros. Et c'est souvent pour ça que je dis que je suis née environ à 30 ans et que là, globalement, j'ai 5 ans. Donc, aujourd'hui, mon visage ne trahit pas de trop. Donc, choisis Bold. Et depuis, ça roule. Parce que aussi, oui, ce que je dis juste avant, c'est... Alors, pour votre parfaite information, je suis à mon 5e cabinet. Ça fait 4 ans que j'ai prêté serment. Si vous avez peur, ne me prenez pas. Mais moi, je sais que ça va bien se passer. Mais voilà.
Ouais. Encore une fois, la rétro est pas le
non.
Est pas l'unique ligne
vraiment.
De mire.
Vraiment. Et ça, ouais. C'est pour tous les jeunes pousses et aussi moins jeunes pousses parce que il y a des domaines où on sait qu'on se dit à 5 ans il faut qu'on gagne 100K par année sinon il y a pas de retour sur investissement. Alors je peux comprendre qu'il y en a ils veulent acheter des apparts ou ils veulent vivre à hauteur du travail qu'ils donnent. Mais en fait, si on est bien dans le travail, c'est pas qu'on compte pas, je vais pas faire Mère Teresa ou d'autres personnes, mais c'est très important quand même. Et moi, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir cette vie, même si j'ai pas la rétrocession à laquelle on m'attend avec 7 ans de barreau, en fait.
Ouais. Et donc, du coup, Bold, maintenant, c'était post-Covid, donc c'était genre 2021, quelque chose comme ça.
2020, ça va faire 4 ans.
2020, ça va faire 4 ans.
Ouais.
Et alors, il y a ce qui t'a séduit chez Bold, ce qui fait que t'as voulu y aller, tu les avais vus chez Willa.
Ouais.
Ils t'ont un peu arrêté en mode, non, mais,
oui.
Voilà, Kadia tout, enfin. C'est bien que tu nous reprécises toutes ces choses que tu as écrites sur ton CV, mais en fait, la base, chez nous, il n'y a pas de sujet. Ton retour, d'expérience de l'intérieur de ce cabinet qui est quand même un petit peu particulier, qui a un modèle de fonctionnement particulier retour d'expérience d'intérieur.
Franchement, un cabinet hors norme, dans le sens où déjà il y a pas de quand... je parlais avant qu'on ne bilait pas, donc si tu es toujours en train d'écouter le podcast, c'est pour ça que 20 minutes avant je parlais de biler.
Ça fait 4 ans que je n'ai pas entendu ce mot.
Ouais, je bile plus, donc je ne facture plus, dans le sens où on facture plus à l'heure. Il y a pas de logiciel comme on peut avoir où il faut mettre ses temps, etc. Ça n'existe pas. On est très souvent en front avec les clients. On est en équipe, on travaille en équipe. Il y a des associés qui sont présents, mais c'est quand même nous qui sommes en première ligne. Le télétravail est autorisé. Il y a une réelle symbiose avec toutes les équipes. On est en open space, gros open space. On est dans un garage rénové aussi, dans le 10e arrondissement. Donc c'est plus du tout l'environnement qu'on peut avoir dans les cabinets traditionnels. Première chose à laquelle j'ai pensé aussi. Quand j'ai eu l'offre de collaboration, j'ai l'impression que tous mes habits de week-end vont être mes habits de semaine. Donc, si j'achète toute ma garde-robe, ça va être compliqué. Non, je rigole, je rigole à moitié. Mais en tout cas, un environnement où je m'attendais pas du tout. On est entre Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis et Bonne Nouvelle. Donc, il faut savoir pour toutes les femmes noires qui vont nous écouter que tout le temps, on se fait racoler pour nos cheveux. Moi, ça fait 3 ans et demi que je subis ça, mais à force, ils me connaissent, donc c'est drôle.
Ça y est, ils ont compris.
Ouais, ils ont compris que Kadia tout travaille, vraiment. Et que je vais pas chez le coiffeur tous les jours ou je vais faire les ongles ou les cils. Mais en vrai, c'est très drôle d'avoir ce secteur-là et de dire qu'on est avocate au quotidien. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment la manière dont je veux exercer la profession et que, certes, je porte la robe parce que je fais du contentieux, mais que ça se passe très bien aussi comme ça. Et en fait, les autres personnes de Bold alimentent cette volonté d'exercer à notre manière, la profession. Le travers qu'on peut avoir dans ce type de structure, c'est qu'on puisse se dire que c'est un peu les vacances parce qu'il y a des bars partout, on peut avoir des moments un peu plus festifs au sein du cabinet et qu'en fait, vu qu'il n'y a pas d'heures qu'on facture, etc., c'est la fête et que tout se passe bien. Et en fait, c'est là où je pense que c'est encore plus dangereux et que en fait, les clients ont encore plus besoin que nous. Et il faut qu'on soit réactif comme dans n'importe quel cabinet. Et en fait, on reste un cabinet d'avocats. Et donc, d'oublier le fait qu'on reste avocat, ça peut être quand même pas deal breaker, comme disent certains, où en gros, on peut être en situation de difficulté. Mais il faut pas l'oublier, quoi.
Ouais, non, mais c'est le en fait, ça implique une responsabilisation plus importante, plus importante quoi. Il faut que toi-même, il y a une autorégulation à aller chercher chez soi, parce que c'est comme c'est pas les associés qui vont être aller te le chercher en te disant,
Bien
bah
sûr.
voilà, t'as pas rentré, enfin t'as rentré que 4 heures hier, quid, et puis au fait, ça fait 3 jours qu'on t'a pas vu au bureau, donc qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, il y a pas cette espèce de surveillance du système qui se met en place, donc c'est à toi de te responsabiliser à fond et de te souvenir de ce pourquoi t'es là, des besoins des clients, qui d'ailleurs sont probablement, enfin voilà, comme tu dis, sont à la ramasse sur tous les aspects juridiques, mais c'est pas parce que eux ils sont genre cool et tout que il faut pas genre soi-même apporter un espèce de cadre avec une forme de formalisme, enfin voilà, tout ça qui est à prendre en compte quoi.
Et c'est ça qui est, je trouve, le plus difficile. Alors moi, je pense avoir passé le cap aujourd'hui, mais au début, c'était très difficile d'avoir des clients qui sont plus jeunes que toi. La moyenne d'âge est quand même particulièrement jeune des clients. Il y a le tutoiement avec les clients et c'est totalement, ça va très bien. Il y en a qui n'acceptent pas. Enfin, d'autres confrères qui trouvent ça très étrange, mais je pense que ça se fait personnellement. Il y a un sujet de vulgarisation qui est très difficile parce qu'il n'y a plus de notes. On ne va pas transmettre la jurisprudence aux clients, etc. Donc il y a une vulgarisation, mais il y a le travail en amont d'étudier la jurisprudence, d'étudier la doctrine, et il faut traduire tout ça dans le monde entrepreneurial, donc pas évident. Tout ça dans un monde qui va très vite, parce que bon, bah, ça c'est unanime, et ça soit, que ce soit pour les avocats, relations avocat-client, mais relations professionnelles-client, il faut que ce soit pour hier, donc il faut être ultra réactif, et il faut répondre vite et bien, sans se tromper, en n'oubliant pas qu'on a une responsabilité en tant que personne, mais aussi une responsabilité en tant qu'avocat. Le travail en équipe aussi, parce que parfois il y a des sujets qui ont trait aux droits des sociétés, aux droits des contrats, à propriété intellectuelle, etc. Et donc c'est ça qui est quand même très intéressant, mais c'est ça qui est ultra stimulant aussi. Et puis il y a le volet aussi où tu participes à l'écosystème entrepreneurial, où t'es proche des incubateurs, t'es proche des clients, t'es proche de plein d'autres partenaires en fait que t'as au quotidien. Et en fait, finalement, tu te rends compte que ton client, c'est pas forcément un client, mais t'es dans le même bateau que lui. Et c'est là où moi je fais un parallèle avec le basket. En fait, on est dans le même bateau. Et c'est ça qui est trop cool chez Bolt. Ça
Ouais.
fait joli catchphrase.
Et t'as développé ton perso en parallèle?
Beaucoup. Bah, déjà, il t'incite fortement à développer le perso. Et bah ouais, via le basket, en tout cas, je sais que j'ai eu moins peur de. Enfin, j'avais pas forcément peur. Je m'explique. J'ai jamais vraiment très peur, mais je me dis toujours bon. Est-ce que tu peux le faire ou pas? T'as toujours une petite crainte, tu te dis que tu prends un risque, etc. Mais même quand les associés te disent, mais il faut que t'ailles développer, c'est trop cool, tu te feras les dents, au pire, ça marche pas avec lui, ça marchera avec quelqu'un d'autre, et il te pousse à le faire, et ça c'est trop cool, et oui, bah, grâce à ça, j'ai développé ma clientèle perso, et puis, je m'exprime devant toi déjà en podcast, et ce sont des choses que j'aurais pas pu faire avant, je pense.
Ouais. Le sentiment de à la fois d'être encouragé parce qu'il t'encourage à y aller et à foncer et quitte à te prendre des portes, mais en fait peu importe. Et à la fois parce que bah effectivement t'as pas peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux, de participer à un podcast, de enfin voilà, de te mettre en avant en sachant que tu te mets pas forcément en avant en mode la collaboratrice de chez Bold, mais en tant que bah juste toi quoi.
Et ça, c'est totalement bien vu de la part des associés. Et puis, ils nous ont aussi mis devant la caméra, en fait, hein. Ils nous ont aussi mis devant la caméra. On a pu tourner des vidéos, etc. Donc, c'est très cool pour ça.
Ouais. Et tu, enfin, on a abordé, tu vois, le sujet de bah femme noire, avocate, où tu dis que bon bah déjà quand t'es venue à Paris, t'as vu la diff par rapport à Strasbourg, où tu t'es sentie moins seule. Et à un moment, t'as dit quelque chose du style, bah d'une certaine façon, même jusqu'à il y a environ un an. T'avais un peu personne à qui en parler. Enfin, tu vois, à un moment dans ton discours, j'ai eu l'impression qu'il y a un truc qui a switché il y a un an, comme si tout d'un coup, t'avais trouvé des interlocuteurs pour aborder ce sujet.
Histoire malheureuse, mais qui m'arrivait assez souvent, et j'en parlais, mais sans réaliser. Mais en fait, je suis allée en audience, et je suis assez stricte dans la vie de tous les jours. J'adore le wax parce que depuis, j'ose mettre des couleurs, disons. Et en fait, je cherche ma salle d'audience à Versailles, et il y a un confrère qui me parle, qui pense que je ne suis pas avocat, Et je lui dis, bah, je cherche telle et telle salle. Et en fait, il me dit, mais attendez, votre avocat, vous lui poserez la question. Bon, de toute façon, là, c'est souvent la correctionnelle. Bon, bah, les juges sont pas ultra sympas. Donc, il y a des chances quand même qu'il y ait une condamnation. Et moi, je dis rien parce qu'à force, quand même, j'ai
C'est pas la première fois?
Non. J'ai ma forme de répartie. J'ai tellement pleuré, je dirais en Alsace, via les matchs de basket, on me prend pour un singe, grosso modo, ou on m'attend pas à certains endroits. Mais oui, ça m'arrive plein de fois et ça sera l'objet d'un autre podcast. Non, mais on me prend soit pour une prévenue, soit pour femme ménage, soit, bon, bref. L'assistante assez souvent aussi, mais l'assistante, pour moi, là, c'est la clé dans chaque cabinet, donc je trouve que c'est très valorisant. Notamment quand RPVA ne fonctionne pas. Non, mais je rigole. Mais en tout cas, les assistantes, elles font un boulot de fou. Et il faut vraiment le souligner. Et donc, je reviens après avec ma robe. Et le confrère me dit, mais vous êtes cruelle. Et moi, je dis, bah, écoutez, moi, il y a un beau gosse qui me parle. Donc, je l'ai écouté. Et en fait, via un podcast, on me demande si être une femme en 2023, c'est compliqué. C'était pour la journée des droits internationaux, enfin, journée internationale. Je vais y arriver. Journée internationale des droits de la femme. Et on me demande est-ce qu'en 2023 être une femme c'est compliqué, et je raconte cette anecdote qui avait eu lieu une semaine plus tôt, et cette vidéo qui dure 42 secondes est virale, et donc il y a plein de personnes qui commencent à m'en parler, à m'écrire et tout. Je pense que je prends 5000 followers en peut-être 3 semaines sur Instagram, et au fur et à mesure on me contacte pour ça, j'ai gagné de la clientèle personnelle grâce à ça, etc. Et c'est en fait avec grâce aux échanges avec d'autres personnes que je me suis rendu compte que j'en parlais jamais et que je m'isolais aussi toute seule parce que je me suis dit c'est la vie et il faut que j'accepte et que je continue à me battre. Et donc c'est cool en fait de pouvoir en parler, de réaliser en fait.
Ouais, ouais. Que le fait d'en parler, ça fait que tu rentres en résonance avec des personnes qui ont la même expérience et que du coup, ça t'ouvre des espaces de discussion par rapport à tout ça, quoi.
Même si c'était pas du tout quelque chose que j'avais anticipé et imaginé. Je pensais pas du tout que être femme noire aujourd'hui, ça avait le vent en poupe. Je rigole quand je dis ça, mais ouais, je pensais pas du tout que c'était un sujet, ou qu'il y avait d'autres personnes en tout cas qui pouvaient être confrontées à ce sujet-là, et pas forcément femmes noires, mais femmes tout court, d'autres origines, hommes d'une autre origine, etc.
Ouais.
Et la manière dont moi je réagis, je me suis cultivée cette manière toute seule de le faire, et ouais, que ce soit salué par d'autres personnes, j'apprécie.
Ouais.
Parce que du coup, je rigole et je suis contente.
Non, mais si, c'est des sujets. Enfin, moi, je sais que c'est des sujets, à chaque fois, quand ils sont abordés dans le podcast, ça crée beaucoup de réactions.
Ouais.
Depuis les débuts de Fleur d'Avocat, j'ai fait attention à avoir une programmation diversifiée. Oui. Pour dire les choses poliment, et je pense que ça a vraiment fait partie entre guillemets de la marque du podcast au fur et à mesure, et pourtant c'est pas des problématiques que je rencontre moi personnellement, mais du coup ça a créé des ponts avec les invités et avec l'audience. Et tu vois, typiquement, je me souviens très bien quand j'ai diffusé l'interview de Sonia Cissé qui est chez Linklaters.
Bien sûr.
Et elle a parlé, je crois que c'est une des premières dans le podcast à avoir parlé des cheveux.
Ouais.
Dans le milieu tu vois, à corporate, est-ce que tu laisses ton afro ou pas, enfin voilà. Et j'ai reçu tellement de messages à la suite de ça, de personnes qui me disent je me souviens même plus exactement tellement j'avais reçu des messages en mode t'as enfin quelqu'un qui parle du sujet de des cheveux quoi quand t'es une femme noire dans la profession d'avocat. Et je sais que du coup je crois que ça m'avait connecté avec d'autres comptes qui travaillent de façon plus générale sur comment tu gères tes cheveux quand t'es une femme noire en France dans un monde corporate. Mais ça m'étonne pas du tout. Et juste pour terminer rapidement sur ton développement de clientèle, pardon, j'avais sauté d'un sujet, mais donc tu dis que ça s'est notamment beaucoup développé à travers le basket.
Oui, ouais, beaucoup. Déjà parce que je suis vachement impliquée dedans, mais en fait, moi, les clients les prospects, finalement, ils sont sur les terrains. Vraiment.
Ouais. Parce que t'as beaucoup d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs,
Beaucoup, il y en a beaucoup en fait. Alors pour des sujets qui sont assez difficiles, pour les femmes entrepreneuses, c'est parce que le voile n'est pas accepté ni sur les terrains, ni sur le terrain version large, je dirais, ouais. Largo sensu, comme on dit. Mais et donc elle se lance dans l'entrepreneuriat, mais aussi des basketteurs professionnels qui réfléchissent à une reconversion ou qui veulent eux-mêmes transmettre en fait via grâce à leur enfance et l'environnement dans lequel ils ont grandi et transmettre à leur tour à des jeunes futurs basketteurs. Mais il faut une structure, il faut des sponsors, etc., etc. Et ils ont pas mal de problèmes aussi. Ouais. Et je les rencontre vraiment sur les playgrounds parce que je continue à jouer sur les playgrounds.
Ouais. Et pour eux, tu fais principalement du droit des sociétés ou ça t'a, entre guillemets, ouverte aussi à d'autres problématiques juridiques?
Alors, c'est un peu droit du sport, mais appliqué au droit des sociétés. Mais c'est essentiellement du contentieux, finalement.
OK.
Ouais, contentieux. Alors, pour les pros, contentieux agents, enfin, pas agents. Via leurs agents, c'est comme ça que j'ai de la clientèle, mais contentieux, rupture brutale de relations commerciales, je dirais, fin du contrat de travail, et après en conseil, ouais, c'est effectivement création de la structure, et après je les accompagne au quotidien, quoi.
Ok, ok. Quel est ton principe déontologique préféré? Ah non, pardon, je t'ai pas posé, j'ai oublié une question. Comment est-ce que tu te projettes?
Oh. Et je vais continuer à courir. Comme j'ai fait mon marathon, je continue le marathon de la vie pour l'instant.
Mais pour le moment, toujours avocate en tout cas.
Ouais, toujours avocate. Toujours avocate, toujours avec la bagarre, voilà.
Donc t'as bien fait de redonner une chance à la profession en 2016, ouais. 2017.
Ouais, très contente. Et je pense que, ouais, de me retrouver chez Bold aujourd'hui, dans un environnement dans lequel personne ne m'attend finalement, en tant qu'avocate d'un côté, mais de l'autre côté, pour les coiffeurs africains, avocate, ouais, voilà.
Et d'ailleurs, tu mentionnais le fait que tu avais aussi sur tes épaules un peu la responsabilité d'être un modèle pour tes petits frères et sœurs. Et tu as dit qu'elles avaient fait des études plus ou moins longues chacune, ouais. Et tout. T'as l'impression d'avoir rempli ce rôle.
Je pense que je l'ai rempli quand elles ont... Alors, j'ai que des petites sœurs. Je petites tiens à préciser sœurs. Qu'on est 5 filles, une équipe de basket. J'ai rempli mon rôle parce qu'elles m'ont vu souffrir dans mes études. Donc, ma mère a compris que vaut mieux se sentir bien que de faire de longues études juste parce qu'on veut pas souffrir, parce qu'on souffre quand même. Donc, si on veut pas faire quelque chose, on le fait pas. Ça, elle l'a compris. Mes sœurs l'ont compris aussi. Et je pense que c'est la plus belle passe décisive, si je veux rester dans le sport, que j'ai pu leur faire.
Okay.
Et donc, aucune n'est avocate aujourd'hui. J'ai une petite sœur qui travaille en magasin, une autre qui est assistante maternelle et une dernière qui est encore étudiante aujourd'hui, mais qui se dit pourquoi pas se reconvertir et je la soutiens à 1000%.
Ok. Et voilà, donc quel est ton principe déontologique préféré?
La communication. Non,
la
je rigole.
La communication.
Ouais, non,
qui
beaucoup.
Du coup, pas un principe déontologique.
C'est pas un principe déontologique. C'est pas un principe déontologique, mais je pense à l'article 10 du RIN pour rattraper ce que je viens de dire. L'indépendance.
L'indépendance. Ouais. Quelle est ta dernière joie?
Ma dernière joie. Bonne question. Ma dernière joie, je pensais d'avoir couru mon marathon. J'ai fait un marathon.
Ah ouais, t'as couru un marathon, ouais. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de basket, ouais. mais tu fais aussi de la course à pied.
Alors j'ai fait une parenthèse de course à pied. Je rends les baskets en tant qu'athlète. Je reprends le basket des baskets. Mais ouais, c'est ma plus grande joie. Et en fait, ça aussi, je pense que c'est grâce à Bold où on t'encourage à faire plein de choses, notamment le sport. Et là, je me suis dit que je pouvais vraiment tout faire et avoir l'audace, parce que Bold veut dire audacieux aussi. Hein. Donc j'ai couru un marathon en décembre. Ouais.
Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe?
Plein de wax, plein de couleurs comme celle-ci, et la fierté d'être celle que je suis en fait.
Okay. Ouais. Ouais, merci beaucoup Kadiatou pour cet échange.
Avec grand plaisir.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !